I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les petits bandits.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va bien. Ça va Manuel, ton pull va bien?
Attends, faut qu'il court jusqu'au micro parce que là il est dans une autre pièce. Il vient d'arriver, ça y est, il est essoufflé. Ça va Manuel?
Oui, ça va et
tu
vous?
Tu peux reprendre ton souffle, hein, t'inquiète pas, prends ton temps.
Ça roule.
Qu'est-ce que vous pensez des petits bandits? Je me suis dit, je vais un peu innover cette fois, je vais changer de surnom.
Petits bandits?
Ouais, les petits bandits.
Ah oui.
Parce que vous êtes un peu des petits bandits.
Ah oui.
Il est chaud.
Je sais pas. Pourquoi?
Non. Mais je sais pas.
Ah.
J'ai fait un truc très simple pour ce podcast.
J'aime bien, je trouve que ça sonne bien. Bandit.
À mon avis, on est moins bandit que la majorité des gens qui ont prononcé des phrases bizarres dans l'entrepreneuriat.
Oh.
C'est ce que j'ai fait. Parce que j'arrête pas de tomber sur TikTok sur les phrases d'entrepreneurs à deux balles et je me suis dit, attends, si je fais vraiment une recherche.
Arrête tes conneries.
Non, mais si je fais vraiment une recherche sur les meilleures citations d'entrepreneurs, ça donne quoi? Si c'est pas juste celle que me propose TikTok à l'arrache. Donc, j'ai pris pas mal d'entrepreneurs. Et les citations les plus connues.
Ok.
On va passer du coq à l'âne. Hein.
Je suis dedans ou pas? Je suis dedans?
Non.
C'était
non,
pas dedans?
Non.
Ah, je suis trop jeune encore, je pense.
Ouais.
Manuel, il est dedans?
J'aurais pu faire la vanne. Je l'ai pas mis.
Bah,
j'aurais
super.
Reconnu.
T'aurais reconnu, tu penses?
Bah oui.
Tu penses que tu te souviens de tout ce que tu dis?
Non.
Ouais, je suis pas sûr non plus.
Mes punchlines en général.
Surtout dans ce podcast.
C'est facile à reconnaître. En général, il y a toujours quelques gros mots au milieu.
Vous savez que quand je quitte ce podcast, moi, je ressens un vide. Je me souviens pas du tout de ce qu'on a dit.
Alors, c'est vrai, je l'avoue. Parfois, Thomas me dit le lendemain, Thomas, celui qui monte le podcast, notre homme de l'ombre, et dans un temps, il me dit, ça va, c'était bien hier le podcast. Et genre là, tu fais, vide intersidéral. Je sais plus.
À chaque fois qu'il me parle du podcast, je dis, tu peux m'éclairer sur le sujet déjà, parce que j'ai rien, quoi. Je sais pas ce qui se passe. Il y a un truc dans cette pièce.
Vous avez un problème d'alcoolisme.
Putain, mais j'y ai pas pensé. Non, bah maintenant que tu le dis, Manuel, peut-être que c'est le jus de pomme qui fait ça.
Non, je crois pas. Je crois que c'est la pièce. Il y a un truc. Hein.
Ah oui.
Il y a un truc.
Peut-être c'est... des vapeurs d'alcool, mais il y a un truc.
Il y a des citations qui vous ont marqué parce que à la fin, je me pose la question est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ça inspire vraiment les gens de mettre une phrase qui résume parfois le parcours de la personne qui l'a dite parce que en 10 ans, il a appris tel truc.
Ouais, il y en a plein, mais pas forcément d'entrepreneurs.
Ouais, de philosophes plus, mais d'entrepreneurs aussi.
Ouais.
Je pense que quelqu'un de très
c'est
con peut dire un
pas
truc.
Pas forcément.
Pas forcément, ouais. Ouais. Je pense que quelqu'un de très con peut dire un truc très intelligent une fois dans sa vie et ça peut devenir une citation qui est extraordinaire.
Est-ce que c'est pas ce qui résume TikTok en fait? Des gens.
Il y en a moins.
Globalement très très cons qui sur TikTok paraissent pour très intelligents parce que le contenu dure 20 secondes.
Moi j'ai jamais vu quelqu'un qui avait l'air intelligent sur TikTok. Hein.
Ok.
Alors je vais pas très souvent, hein, tu vas me dire, mais. C'est quand même le règne du rien.
Moi, j'aime.
Moi, ce qui me fascine sur TikTok, quand même, quand j'ai vraiment envie. Alors, une fois que j'ai passé mes comptes de voyantes préférées.
Mais c'est véridique. Hein.
Parce qu'elles ont des pronostics incroyables, etc. Bon, ça me fascine. Mais je vais lire les commentaires, mais sur n'importe quelle vidéo. Et t'as l'impression de voir le sketch de Jérôme Commandeur, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui discutent, mais de sujets qui n'ont absolument rien à voir avec la vidéo. Et ils se fightent entre eux. Mais ça n'a aucun rapport en fait.
C'est fou furieux.
C'était juste là, il y avait des chaises de libre, ils se sont assis pour discuter d'autre chose en fait.
Moi j'aime bien citer des gens hors contexte, dont il ne faudrait pas que je dise le nom à ce moment-là parce que ça perdrait beaucoup de pertinence. J'ai déjà cité du Aya Nakamura dans des vidéos.
Non.
Dans une vidéo, je me souviens de citer Aya Nakamura et ça passe comme une punchline.
Je comprends pourquoi tu dis, je peux pas dire que je les cite parce que tes vidéos sont très scriptées, donc tu peux pas dire comme le disait Aya Nakamura, mais par contre c'est très marrant de le savoir.
Oui, puis c'est vraiment une toute petite phrase, mais c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, tu peux être très surpris en fait, dans une œuvre, tu t'y attends pas du tout, tu peux entendre un truc qui résonne et qui fait sens.
Bon, premier de Richard Branson.
Ah.
si je m'amuse en faisant cela, je suppose que d'autres personnes s'amuseront aussi. Alors, Richard Branson, c'est assez particulier. Tu m'en parlais la dernière fois, Manuel. C'est vrai qu'il a toujours assumé.
Il faut vraiment mettre beaucoup de contexte autour de la citation.
Parce parce que là, je ne l'ai pas, moi.
Je ne vois pas vraiment quoi c'est fascinant.
Il résume simplement le fait qu'il n'a jamais fait quelque chose en se posant la question de est-ce que ça allait toucher les autres. Il part du principe que si lui, ça l'amuse, il y a forcément d'autres personnes autour qui vont être animées par le même projet.
Moi, je crois que c'est une citation qu'il a fait en jouant au Lego avec un de ses enfants.
Ouais. Mmh.
Et depuis, il s'est dit on va la mettre dans un livre.
Ouais.
Ça va faire réfléchir des gens.
Parce que j'aime pas ce truc de se dire ouais, mais si moi j'en ai besoin, ça veut dire que tout le monde entier en a besoin. On en avait parlé dans d'autres podcasts sur comment analyser son marché, faire des études de marché, son business plan et tout ça. Mais je ne suis pas persuadé que parce qu'un projet t'anime, il faut forcément le développer, quoi.
Alors, c'est plein de choses qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre.
Pourquoi ?
Y a des morceaux de vrai, mais je ne vois pas de lien entre tout ça. En fait.
Toi, tu n'aimes pas la citation, en fait. Tu penses l'inverse.
Ouais. Il est en train de dire qu'il aime bien la citation.
Non, il pense... dit qu'il n'aime pas.
Ah bon,
non. Qu'il n'est pas d'accord avec la station.
Moi, je dis qu'il faut être animé par ce qu'on fait, mais que ce n'est pas parce que toi, ça t'anime que ça va forcément animer quelqu'un d'autre. Tu me l'avais déjà expliqué, Manuel. Par exemple, un employé, il faut le considérer comme un employé. Ce n'est pas ton associé, ce n'est pas un cofondateur. Donc, si ton employé il décide de ne plus être animé par ton projet à 17h parce qu'il arrête de travailler, il a un taf d'employé. Il n'a pas besoin d'être animé autant que toi par ton projet. C'est pas parce que toi tu t'amuses à faire quelque chose que les autres vont s'amuser autant que toi, quoi. C'est ça que je...
Pour moi, c'est pas ça qu'il dit. Il dit juste que parler de soi, c'est la meilleure façon de parler des autres. Quand tu fais un truc parce que ça te plaît, il y a quand même de très grandes chances pour que ça plaise au moins à quelqu'un d'autre dans l'univers. Maintenant, si c'est pour faire un gros business, peut-être que tu vas sortir un truc de niche et peut-être que vous êtes pas des milliards à kiffer ce truc là mais t'es pas unique au monde, en fait. S'il y a un truc qui te plaît, s'il y a un truc qui te parle, qui te touche, tu peux être certain que ça va toucher d'autres gens. C'est juste ça qu'il dit.
Ok.
Je vois pas de profondeur dans cette phrase. Je pense qu'il dit un truc très terre à terre, qui dit qu'en gros, il a besoin d'amusement pour travailler. Qu'il est un grand enfant, en fait.
Ok. Et tu penses que c'est une règle qui s'applique à beaucoup ? Tu penses que c'est un truc à suivre ?
Ça peut être un moteur pour certains. Mais... ça m'inspire pas grand-chose de sustainable.
Ok.
C'est-à-dire que le problème de l'amusement, c'est qu'au bout d'un moment vient la lassitude, et quand la lassitude arrive, tu dis quoi ? Peux pas t'amuser toute ta vie. Hein.
T'aimes pas l'amusement, Manuel ?
Non, je ne joue pas aux jeux de société. Aucun jeu de société, aucune forme de jeu. Je n'ai pas de jeu sur mon iPhone. J'aime pas les jeux.
Bon, on passe à quelqu'un de beaucoup plus terre-à-terre. Mark Cuban. Vous connaissez ou pas ?
Non.
C'est un entrepreneur américain. Il a notamment cofondé avec deux associés Broadcast.com, qui a été vendu à Yahoo pour 5,7 milliards en 1999. Depuis, il a des chaînes de radio, l'entertainment, etc. C'est quelqu'un de très connu et de très médiatique aux US. J'en ai pris plusieurs de lui parce qu'elles sont beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus business. La première, ne créez pas d'entreprise si ce n'est pas une obsession et quelque chose que vous aimez. Donc ça va avec ce que pourrait insinuer Richard Branson. Mais pour autant, là, je suis beaucoup plus d'accord. Je pense que tu peux pas créer quelque chose from scratch que tu n'aimes pas.
Oui, il faut
juste pour l'argent, par exemple.
Mot qui m'intéresse, c'est l'obsession.
Ok.
Il faut que ça soit obsessionnel. Si c'est un effort, ça va moins bien marcher. Si le côté obsessionnel, tu ne le réfléchis pas, en fait, c'est presque un réflexe. Et c'est ça qui va faire la différence, en fait.
Moi, j'ai jamais su expliquer ce truc-là, parce qu'on me posait la question quand on avait 15-16 ans avec Léo. Maintenant, on me pose la question, mais pourquoi tu t'es mis à fond et pourquoi tu pensais que ça allait marcher ? Je dis, mais je le pensais pas, c'est juste que c'était, il n'y avait pas d'autre issue, en fait. Je faisais ce truc-là parce que c'était le seul truc, enfin, c'était obsessionnel. Pour moi, il n'y avait à aucun moment 1% de chance que ça ne puisse pas marcher. C'était impossible, en fait. Je ne sais pas d'où, je ne sais pas comment, mais c'était...
C'est marrant parce que j'y pensais hier à l'obsession, parce que je discutais avec quelqu'un qui me disait qu'il voulait se lancer sur YouTube et qu'il avait plein de questions intérieures. Et je lui disais, en fait, ça dépend pourquoi tu le fais. Si tu le fais comme un hobby, te pose aucune question, parce que de toute façon, il n'y a pas d'enjeu, donc juste fais-le. Si tu le penses comme un potentiel travail, une activité professionnelle, etc., il va falloir que ce soit une obsession et que tu penses à ça nuit et jour jusqu'à ce que ça marche. et tu verras que quand ça marche, eh ben ça continuera à être une obsession parce que tu n'auras jamais appris à faire autrement.
Et alors ?
Et alors, je pense que ce sera peut-être un hobby.
Parfait.
Comprenez la différence entre créer de la valeur et profiter de la valeur d'un marché haussier. Il n'y a rien de mal à suivre le mouvement et à gagner de l'argent. Mais vous serez rattrapé si vous vous mentez à vous-même et si vous vous attribuez le mérite du mouvement. Je la trouve trop bien, cette citation, parce que pour moi, on est en plein dedans. Tu sais, avec les crypto-monnaies qui là réexplosent, des marchés qui sont vraiment en pleine effervescence, t'as plein de gens qui se disent oh, « En fait, ça marche pour moi ». Non, ça marche pas pour toi. Il se trouve que, enfin, c'est mon avis, hein, moi j'attends le vôtre, mais il se trouve que t'es là au bon moment et que tu fais le bon truc.
Comme je suis un peu fainéant sur cette question, je vais passer le plat à Léo tout de suite parce que pour moi, c'est une relation avec le mérite.
Ah.
Allez hop, un bal dans le jukebox, c'est parti.
Et bah, j'allais justement dire, je trouve que c'est un peu extrême et c'est pas parce que tu profites de la valeur créée par quelqu'un d'autre que tu peux pas apporter ta propre valeur à toi. T'es pas obligé d'inventer un truc dans son intégralité pour créer de la valeur. Tu peux simplement créer de la valeur en profitant de la vague lancé par quelqu'un d'autre et ajouter ta patte.
Je pense que on a dit qu'on parlerait pas de Samsung.
Pourquoi ? Ah oui, pardon.
Je pense que c'est pas ce qu'il dit. Il te dit simplement que si t'as des super chiffres parce que t'es dans le bon creux de la vague, il faut juste que tu sois humble et que tu sois conscient que ces chiffres sont extrêmement bons et pas juste bons parce que c'est le moment qui veut ça et il faut juste que tu rationalises ton entreprise.
Moi, je pense qu'il dit un truc beaucoup plus simple que ça, qui dit qu'il n'y a pas de relation entre le succès et le mérite. C'est-à-dire qu'il y a tu as des fois des succès qui n'ont aucun rapport avec ni ton travail, ni ton mérite.
Ouais, ça c'est sûr.
C'est ça qu'il dit, en fait.
C'est rarement le cas, d'ailleurs.
Et il faut accepter que ça, quand je dis le monde est injuste, on parle souvent du creux en disant bah, il m'arrive un truc désagréable et c'est injuste, etc. Ça, tout le monde le comprend. Mm. Mais à contrario, des fois, il t'arrive des succès, mais t'y es absolument pour rien, en fait. Ouais. T'es au bon endroit, au bon moment. Avec la bonne proposition de valeur, ton truc explose, tu sais pas pourquoi, t'es pas particulièrement plus intelligent que la veille, hein, ou ton produit est pas plus foudroyant que la veille, hein. C'est juste que t'es au bon endroit.
Ça peut te faire vriller en tant qu'entrepreneur, si t'en es pas conscient. Il faut en être conscient de ce succès-là, ou enfin, sinon c'est ce qu'ils appellent prendre la grosse tête.
Je pense que ça n'a pas de rapport avec le fait d'être entrepreneur ou pas, c'est une façon de regarder le monde et même de gouverner ta vie.
Ok.
Il y a des trucs qui t'arrivent. C'est pas parce que des trucs cool t'arrivent que tu peux tout de suite t'arroger les mérites de ce qui t'arrive, en fait.
Ok. Gagner les batailles en cours avant de passer à d'autres. Celle-ci, elle est pour moi. Vous ne disposez pas d'un temps ou d'une attention illimitée. Vous pouvez travailler 24 heures par jour, mais ces 24 heures passées sur un seul métier vous rapporteront bien plus. Cela vous permettra d'être la meilleure entreprise possible.
Qui a dit ça ?
La même personne, Mark Cuban.
Oui.
Vous faites plusieurs trucs en même temps ? Vous avez plusieurs projets en même temps ?
Je déteste ça. Je préfère... je préfère tout donner pour finir un truc. En fait, je crois que je fais jamais plusieurs trucs en même temps.
Dis-nous que t'as pas été aux toilettes avec ton Vision Pro.
Si, figure-toi que je l'ai fait pour un plan que j'ai pas utilisé finalement.
Donc, t'as tout donné, t'as pas tout donné.
Non, je déteste faire plusieurs trucs en même temps, je trouve ça nul. De toute façon, on sait que c'est pas efficace en fait.
Comment tu fais du coup en tant que créateur de contenu aujourd'hui ? On nous dit qu'il faut être sur toutes les plateformes, faire des contenus courts, des contenus longs, des lives, etc. Toi, tu continues de choisir tes formats longs. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, tu nous avais dit que tu avais envie justement de travailler plus sur Instagram, sur des contenus courts. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu l'appréhendes concrètement ?
Ouais, mais c'est pas tout faire en même temps. C'est chacun son tour. D'abord, je travaille sur une vidéo YouTube. Quand j'ai fini ma vidéo YouTube, je travaillerai sur un truc Insta.
Ouais, donc t'as un ordre de priorité. Okay.
Ouais. Ok. Alors après, ça m'arrive de mettre en place plusieurs trucs en même temps parce que je suis obligé de le faire pour des raisons d'organisation collective. Mais surtout... bosser sur une vidéo et bosser sur la vidéo d'après, c'est impensable.
Ok.
Parce que ça veut dire qu'il y en a une des deux où je suis pas à fond.
Léo ne travaille jamais sur deux vidéos en même temps.
Impossible.
Toujours que celle d'après.
Toi, Manuel, il y a eu plusieurs...
Enfin, ouais, vas-y.
Il y a eu plusieurs propositions à chaque fois sur des projets externes et tout ça. Moi, j'étais un peu plus fou, je pense, il y a encore quelques années. Je suis toujours un peu, mais tu m'as souvent répété... Non, on se concentre sur un truc. Moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est Influx, c'est de travailler correctement pour cette société-là. Je ne vais pas faire autre chose. Et à chaque fois, je te disais, oh, mais ça, tu peux le faire un peu le week-end, ça. Et tu as toujours été contre.
Bah oui, parce qu'à la fin, tu fais tout mal.
Ouais.
Moi, je conçois les choses comme des escaliers. À un moment, tu ne peux pas passer de la première à la huitième marche.
Et comment ils font les entrepreneurs qui ont plein de boîtes différentes ?
Bah, regarde l'état de Tesla depuis SpaceX.
Ouais.
C'est quand même pas terrible.
Bah, tu
après, ça dépend beaucoup du staff.
Ok.
Il y a aussi beaucoup de gens qui prennent la lumière ou qui sont les entrepreneurs médiatiques de certaines boîtes, mais qui sont pas ceux qui délivrent.
Presque plus opérationnels, quoi.
Voilà. Donc, ça peut être possible à partir du moment où tu as beaucoup de staff qui délivrent, etc. Mais moi, je considère qu'il y a une vertu, et encore plus importante en ce moment, à enseigner l'obsession, l'abnégation, la constance, la régularité, que des trucs chiants, que des trucs pas vendeurs.
Ouais.
Là où le reste du monde passe son temps à t'expliquer que tout va être facile, qu'il y a la slash generation, que tu peux être étudiant, entrepreneur, mannequin, paléontologue et chirurgien, tout ça en même temps, et que tu apprendras l'anatomie sur YouTube. Donc, écoute...
Et du coup, si vous devez me juger, est-ce que vous considérez aujourd'hui que je fais beaucoup de choses et beaucoup trop de choses ? Parce que j'ai par exemple le sentiment, c'est juste pour essayer de comprendre concrètement, moi j'ai le sentiment que j'ai ma mission qui est de créer du contenu, et ensuite ce contenu, mon autre mission, c'est d'essayer de le rendre accessible sur plusieurs plateformes différentes, à la fois en musique, maintenant en podcast, etc.
Autre chose.
Ok, ça c'est autre chose. Donc aujourd'hui, tu considères
déjà
que je suis
plus concentré. Canaliser dans une seule et même mission,
c'est
déjà beaucoup.
Il y a encore eu un call il n'y a pas longtemps où j'ai dit à Manuel, oui, alors j'ai eu ça parce que maintenant qu'on fait les 20 minutes avec et tout, Manuel me dit, non mais les 20 minutes avec, ça fait 3 ans que tu as lancé ça, ça commence tout juste à être vraiment organisé, on a un planning, il y a beaucoup de demandes et tout ça. Et on regarde les gros programmateurs sur des super émissions, ça fait 10 ans qu'ils le font et je ne me rendais pas compte. Tu vois.
Mais en fait, on parlait d'obsession tout à l'heure, comment tu veux être obsessionnel sur... quoi que ce soit, si tu fais 15 trucs, c'est impossible.
En plus, tu deviens incompétent.
Oui.
C'est ce que j'appelle la connaissance de vernis à ongles, en fait. Donc, tu grattes un peu la surface, il n'y a plus rien, en fait.
Bah oui.
Des prothèses.
Après, ce que j'essaie. Enfin, pour moi, parfois, ce qui est difficile, c'est que quand je touche à un truc qui m'éclate, je ne sais pas faire autrement que d'essayer de faire un peu de business avec ce truc-là. Et ça, c'est un truc où maintenant, j'essaie de me dire, tu vois, je parlais des droits musicaux il n'y a pas longtemps encore et tout ça, mais j'essaie de me dire, bon, ça, c'est plus côté passion, investissement, et donc c'est plus le week-end ou le soir, mais la journée, j'essaie de vraiment rester focus que sur mon métier. C'est une manière de faire, ou même là-dessus, vous diriez qu'on s'éparpille trop ?
Bah, en fait, la raison pour laquelle on parle d'obsession, c'est que l'obsession est nécessaire si tu veux atteindre l'excellence. L'excellence, c'est hyper difficile à accéder. Et ça ne passe que par l'obsession. Si tu veux être bon dans plusieurs trucs, tu peux. Mais tu ne seras jamais excellent. Tu seras bon à plusieurs trucs. Okay. Et si ça te suffit, si ça te convient, si tu es à l'aise avec ça et que c'était ton objectif, bah, tu peux très bien apprendre à faire du skate, apprendre à faire du roller et du surf. Si tu veux être excellent dans l'un des trois, bah, il va falloir que tu fasses ça toute la journée et que tu dormes en pensant à ça.
Pour résumer ce qu'on vient de dire là...
Je vais citer mon grand-père.
Ah, vas-y.
Parce que,
avec l'accent du Sud aussi ou pas ?
Il n'avait pas l'accent du Sud. Mon grand-père peut-être le tient là.
Parce que moi, tous les grands-pères ont l'accent du Sud.
Oui, je sais sûr. Bah, tous les gens d'ailleurs.
Il disait qu'il vaut mieux être bon à rien que mauvais à tout. Mais c'était pour justement me faire comprendre que... il faut être obsessionnel.
Sa dernière citation que j'avais sélectionnée, c'est... Ne vous noyez pas dans les opportunités. Si vous avez de nouveaux éléments alors que vos activités principales sont en difficulté, au lieu de relever le défi, vous êtes soit en train de fuir, soit en train d'abandonner. Il est rare que l'une ou l'autre de ces solutions soit bonne pour une entreprise.
Bah, la quantité de gens qui ouvrent de nouveaux dossiers pour ne pas faire face à la difficulté du premier est assez astronomique, mais on le fait tous. Tu te dis, oh, bah, ouais. Cet email, je le referme, je ferai plus tard.
Oui, c'est de la lâcheté.
Voilà, c'est de la lâcheté. On en a parlé il n'y a pas longtemps.
Mais c'est ce qu'on disait il y a une minute, il faut faire des choix. Et ne pas faire des choix n'est pas un choix. Ou c'est le choix de la lâcheté.
Et choisir, c'est renoncer. Tu me tends des perches.
Oui.
J'en ai sélectionné une de Mark Zuckerberg.
Oh, bizarre.
Ah, une seule. Le Quest, c'est le meilleur produit au monde ?
Non. Alors, je ne mangerai plus que de la viande que j'abats moi-même.
J'ai pas essayé.
Quoi ?
T'as dit quoi ?
Je crois qu'il avait fait cette déclaration.
C'est un alien.
C'est un fou.
Il avait dit qu'il mangerait plus que de la viande des animaux qu'il aura tués lui-même.
Oh, il fait peur. Donc, du coup, et je pense qu'il s'est dit, ça va plaire aux vegans.
J'ai pas voulu le traduire parce que je pense que ça se traduit pas. C'est ce que tu me disais, c'était assez...
Oh, bah là, grand moment. Du popcorn, quelqu'un ?
Attention, on est tout
ouïe. C'est une phrase.
On va voir les progrès.
Bah oui, mais ça nous suffit.
On va juger les progrès. Maintenant, t'as plus aucune excuse.
D'accord, pas de problème. Move fast and break things. Je sais pas comment dire casser les choses. Je trouvais que ça rimait à rien. Mais...
Casser les culs, on dit en français.
Ouais, peut-être, c'est ça. Avancer vite et casser tous les défis. Qui... Ah, c'est ça ?
Bah oui.
Okay.
C'est vraiment Zuckerberg, ça. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a dit avant.
Je sais pas.
Après, il complète.
Moi, je vérifie pas les sources de Romain.
Il n'y a aucune source de vérifier, il faut le savoir. Là.
Si, si. Enfin, moi, je les ai vérifiées.
Ah, voilà, c'est vérifié.
Que je ne suis pas allé sur bestquotes.com.
T'as vérifié que ce n'était pas des gens qui l'avaient dit avant ?
Non. Enfin, ouais, non, ça, j'ai pas vérifié.
D'accord. Donc, les sources, faites attention. C'est Gandhi, en fait. Hein.
On sait pas.
Ayez des convictions, vous en aurez besoin. Testez, testez, testez. Créez un cadre pour l'innovation. Constituez une équipe pour le long terme. Engagez des personnes meilleures que vous. En gros, c'est ce que lui résume dans beaucoup de ses citations. Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à ajouter.
Ça, c'est hyper hypocrite. C'est qui le boss de Meta ?
Bah, c'est lui.
Hyper hypocrite.
C'est ce que je trouvais aussi, honnêtement.
Qui est-ce qu'il a engagé de meilleur que lui, du coup ?
Ouais, je pense que dans ses équipes, il y a des meilleurs devs que lui.
Oui, non, ça c'est sûr, mais je pense qu'il y a aussi de meilleurs patrons que Mark Zuckerberg.
Oh, il y en a pas mal. Il y en a des moins bons aussi. Hein.
J'en ai pas fait des tonnes sur le prochain.
Beaucoup.
Et Steve Ballmer.
Ouais, mais en attendant...
Il commence à se rapprocher. Hein.
En attendant, Ballmer, il a plus de fric que Gates.
Quoi ?
T'as pas vu dans le classement, là ?
Non.
Mais si, c'est incroyable.
Pardon, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a joué...
Et bah, c'est qu'il a beaucoup de chair, en fait.
Il a fait des paris hippiques ?
Il a beaucoup, beaucoup.
Ah oui,
incroyable, putain.
Est-ce que lui aussi il mange les animaux qu'il tue lui-même ?
Pour vous rappeler que c'est pas du tout lié au mérite,
ouais.
Bah pensez à Steve Ballmer.
Le mérite, ça n'existe pas.
J'en ai pas fait des tonnes sur Elon Musk, j'en ai retenu une.
Allez, ça y est, ça arrive.
Une.
Et après, ce sera Warren
Mais
Buffett.
Celle-ci, je la trouve très compliquée à mettre en place et pourtant, c'est indispensable pour grossir. Il disait, apprenez à transmettre vos connaissances.
Et manger du cassoulet.
Peut-être. Mais apprenez à transmettre vos connaissances. Je trouve que c'est une caractéristique super difficile à développer quand t'es jeune, en fait.
Le mec est le moins bien placé pour dire ce genre de choses.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Pourquoi tu dis ça ?
Ouais, pourquoi ?
Pourquoi ?
Ouais.
Parce qu'en gros, on a tous lu des articles sur comment il conduisait les interviews pour engager des gens, etc. Il passe son temps à les tester.
Tu confonds pas ? Ah oui, c'est Elon Musk, pardon, ouais, j'avais vu Gates encore en tête. Non, c'est 100% Elon Musk qui fait ça.
Et Gates, il arrive.
Et il considère que si les gens sont moins bons que lui, il les engage pas. Donc apprenez à transmettre vos connaissances, excuse-moi, mais c'est un peu,
peut-être,
un peu moyen.
Peut-être qu'il dit ça pour que les gens le fassent avec lui.
Non, je pense que c'est ça. Un attaché de presse qui dit ça, en fait.
Ok. Bon, si on parle simplement de transmettre ses connaissances, comment on apprend à le faire ? Parce que, enfin, perso, j'ai...
Bah déjà,
j'ai...
il faut en avoir.
Ouais.
Ah ouais, première étape, ça.
Voilà.
Pas la plus facile.
Moi, je rencontre des tonnes de gens qui veulent transmettre des choses qu'ils ne connaissent pas.
Ah oui.
Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a même qui en ont fait un business.
Le savoir.
Ils vendent des formations en ligne.
90% des formations.
Mais c'est une catastrophe, sans déconner.
Bah, c'est surtout
c'est...
que les.
Et c'est terrible parce qu'il y a des très bonnes formations. C'est pas parce que ces formations sont en ligne qu'elles sont mauvaises. Il y en a qui sont vraiment très très bien.
Ouais.
Mais il y a quand même une grande majorité de formateurs en ligne. Mais qui n'ont jamais rien achievé dans leur vie, en fait.
C'est
quoi.
Surtout que, enfin, juste, pardon, si vous regardez, c'est pas eux qui les écrivent, les formations. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui se disent, bon, je suis pas trop mauvais avec ChatGPT, etc., je vais te sortir un e-book, un truc, un machin.
Même avant ChatGPT, Romain. Je veux dire, ils ont pillé les gens qui ont écrit des livres, en fait. Putain. Et ils se font passer pour des gens intelligents. Et ils passent. En fait, quand tu as lu trois trucs dans ta vie, tu repères très très vite d'où l'idée vient.
Ouais.
Alors, comme ils sont un tout petit peu prudents, ils n'utilisent pas exactement les mêmes mots pour ne pas se faire toper trop vite. Mais des nouveaux concepts sur lesquels il y a eu du travail, il y a eu de la recherche, il y a des backups scientifiques derrière les idées avancées, etc. On n'en trouve pas tant que ça, en fait. Par contre, il y a toute une catégorie de vendeurs de formation qui sont en réalité des gens qui te vendent de l'accélération à la lecture. C'est juste qu'ils ont lu trois trucs, ils mixent ça, ils le mettent dans un contenu vidéo parce que c'est moins chiant, c'est plus facile à digérer. Pour moi, c'est des sachets de protéines. Ça ressemble à ça. Les gens ne veulent pas se faire chier à cuisiner, donc ils bouffent un truc en poudre, ils le secouent dans un shaker, ils l'avalent. Et ils pensent qu'ils ont mangé.
Sauf que ça coûte 500 balles.
Oui, dans certains cas, oui.
J'ai une question pour vous. Est-ce qu'il faut nécessairement avoir un nom, au moins réussi sa vie dans le domaine que l'on prétend connaître, pour faire une formation? Ou alors, est-ce qu'un mec qui n'est pas forcément connu dans ce domaine-là peut très bien transmettre des super leçons?
Pour moi, ça n'a aucun rapport avec le fait que tu sois connu ou pas connu.
Non, mais ton niveau de réussite.
C'est un rapport avec le fait que tu aies expérimenté le sujet dont tu parles.
Non, mais Léo, ça veut dire que tu serais OK de suivre une formation qui t'explique comment avoir 100 000 abonnés sur YouTube, alors que tu le regardes sur une chaîne qui a 1000 abonnés? Parce que ça, il y en a beaucoup. Hein. Bah, et ça, je trouve ça incroyable de faire ça.
Ouais, je pourrais, ouais. Oui, je pourrais. Parce que le mec a peut-être acquis des connaissances avec une autre expérience. C'est pas parce que cette chaîne-là, en particulier, qui a une chaîne qui vend des formations, donc c'est pas non plus le truc qui intéresse toute la France.
Oui, il a peut-être travaillé avec quelqu'un, il a été dans l'acquisition d'un autre créateur, etc.
Et puis tout simplement,
c'est que c'est dur à vérifier.
Et tu peux avoir travaillé la théorie, en fait. Alors après, moi, j'achète pas beaucoup de formations. Et en général, quand je vois un mec qui prétend connaître un domaine, et je l'ai vu nulle part dans ce domaine-là, etc., oui, je vais me méfier. Mais pour moi, c'est pas obligé d'être marqué sur ta gueule que t'as une expérience. C'est ça qui est compliqué dans le fait de faire confiance à des formateurs en ligne.
Je te donne un exemple. Je me suis fait kiffer un week-end. J'ai pris, ça fait longtemps que je suis, un photographe qui fait des vidéos backstage, des photos Formule 1. Il est tout le temps sur les paddocks de Formule 1 et tout.
Comme par hasard.
Photos de malade. Et je me suis dit, OK, il a une formation. Vu que j'aime la photo et que j'ai jamais arrêté d'aimer la photo depuis des années, j'ai regardé cette formation.
Depuis
mais jamais
j'aurais jamais
pris cette formation-là si ça m'inspirait pas un minimum et si ce qu'il me promettait, c'était pas son métier ou si c'était pas, enfin si je pouvais pas vérifier son expertise.
Oui, non, mais c'est ça qui est difficile. Mais j'ai du mal à mettre une étiquette sur la gueule du mec en disant, comme tu le disais, Manuel, t'es pas connu, donc t'es une merde.
Moi, je me fous de son niveau de réputation.
Ouais, c'est
pas de réputation, mais de notoriété spontanée plutôt.
Ouais, ouais.
Ça m'est complètement égal. Il y a des mecs qui ne sont pas du tout connus du grand public, qui sont complètement niches et qui sont très très compétents parce qu'ils ont fait des trucs incroyables et c'est facile à vérifier.
J'ai un exemple.
Ah.
Il y a plein de gens qui sont plus productifs que moi.
Ça le confirme.
Beaucoup plus. Pour autant, je pense que je suis mieux armé pour expliquer la productivité à des gens. Parce que c'est pas parce que des gens sont productifs qu'ils connaissent la théorie derrière leur productivité.
Et Léo, tu l'es quand même.
Oui, non, mais je le suis quand même. Mais il y a des gens qui le sont beaucoup plus que moi. Mais c'est pas parce que t'es productif que tu connais les raisons de ta productivité. Ça peut être naturel, ça peut être t'as grandi comme ça, t'as été éduqué comme ça, etc. T'as jamais réfléchi au truc. Va l'expliquer à des gens, ce truc-là.
Ah, mais attends. Il y a un complément qu'on n'a pas donné, mais qui est quand même très très important, parce qu'il me paraît frappé au coin du bon sens. C'est que c'est pas parce que tu es bon dans ce que tu fais que tu es bon pédagogue.
Complètement.
Et que tu sais pourquoi.
Donc, tu n'as peut-être pas pris de recul sur la question. Tu ne sais peut-être pas bien l'expliquer ou le transmettre. Tu n'as sûrement pas la méthode pédagogique pour le faire, etc. Voilà, le top du top, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui sait bien l'expliquer. Ça, c'est le top du top.
Et là, je voulais en venir, c'est que moi, comme je peux avoir des problèmes de productivité, comme c'est un problème du coup chez moi, j'ai lu plein de ressources. J'ai lu des livres. J'ai lu des livres, en fait, j'ai lu des articles, etc. Je me suis vraiment inspiré, je me suis vraiment instruit autour de ce sujet-là, donc je suis mieux armé pour expliquer des techniques de productivité et la théorie de la productivité que quelqu'un qui l'est naturellement.
J'ai ce sentiment-là quand je fais des vidéos tutoriels où je prends le temps d'expliquer sur des sujets, je me dis mais il y a 10 fois plus calé que moi parce que je les ai regardés ces mecs avant. Sauf qu'ils sont tellement chiants, tu comprends tellement rien, tellement c'est spécifique, tellement c'est pas pédagogue, que parfois j'ai un peu le syndrome de l'imposteur en me disant bah, attends, l'autre il connaît 10 fois plus que moi, mais par contre dans mes vidéos elles vont faire plus d'audience, elles vont être plus appréciées parce que je serai peut-être plus didactique, plus grand public quoi.
On en revient à ta citation de tout à l'heure, tu crées de la valeur à partir de la valeur de quelqu'un d'autre.
Ouais.
Bah voilà.
La valeur elle est pas juste à la racine.
C'est comme ça que fonctionne le monde. Oui. Déjà, quand tu nais, t'écoutes ta maman ou ton papa te parler. Donc déjà, tu prends de la valeur de quelqu'un. Quoi. Tu nais pas en te disant, tiens, je sais parler. Quoi.
Donc tu profites de l'impulsion de quelqu'un d'autre.
Ouais, toujours.
Tu n'inventes jamais rien.
Ouais, tu es né d'une impulsion.
Elle est très, très bien.
Je t'ai entendu.
Tu es né d'une impulsion.
Absolument, Manuel.
Bon, une de Bill Gates, mais je la trouvais rigolote et je pense que Manuel a une vanne. Bill Gates, vos clients les plus mécontents sont votre meilleure source pour apprendre.
Oh, j'ai pas de vanne, c'est vrai.
Bah, quand tu fais Microsoft, oui, mais parce que tu pars du principe que Microsoft a plus de bugs, plus de problèmes avec ses clients et tout ça que le reste.
C'est de là à en faire un écran bleu dans tous les produits.
Je pense qu'il il a dit ça parce qu'il a que des clients mécontents, je pense. Sinon, il aurait jamais dit ça. S'il avait été chez Apple, il aurait jamais dit ça.
Non, mais toi, Léo, t'es très là-dedans. Tu regardes beaucoup les haters. Tu regardes beaucoup les gens qui sont contre ton avis, t'aimes débattre, t'aimes ce... Il y en a qui veulent pas le voir. Il y en a qui se disent, non, moi, je sais qu'il y a des gens qui y aiment et surtout, je ne vais pas regarder ceux qui me disent qu'ils n'aiment pas mon produit ou autre.
C'est pas les haters, j'apprends rien des haters. Je me barre avec les haters, mais tu peux rien apprendre de quelqu'un qui ne parle même pas de ton propos, en fait. Puisqu'un hater ne fait jamais. J'apprends beaucoup, et surtout je m'amuse beaucoup à débattre avec les gens qui effectivement sont pas d'accord avec moi. Et ça m'intéresse beaucoup moins de discuter avec quelqu'un qui est d'accord avec moi, parce que je pars du principe qu'on n'a pas grand chose à se dire, que de discuter avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, parce que alors là, la conversation elle peut aller assez loin, et tu vas... avoir à affronter des arguments auxquels t'aurais jamais pensé. Donc ça m'intéresse beaucoup. Je pense que j'apprends beaucoup de ces débats et c'est pour ça que j'en fais autant. Ouais.
Manuel, t'as un process, une recette miracle pour te nourrir correctement et rapidement des feedbacks de tes clients, mécontents ou contents?
De façon générale, même hors business, quand j'essaye de me construire une opinion sur quelque chose, parce que j'en ai besoin ou j'en ai envie, je lis les deux camps. Donc je lis ceux qui sont pour et je lis ceux qui sont contre. Et souvent, on a tendance à ne lire qu'un camp. Mmh. Je pense que tu ne peux pas te construire une opinion si tu ne lis qu'un camp.
Je fais ça pour les 20 minutes avec. C'est...
Non, mais c'est 10 minutes et 10 minutes.
Non. Ah. Mais je regarde parce que vu que j'interview 10
minutes où
une
il
personne...
est hyper sympa et 10 minutes où ça devient un connard.
Non mais tu sais, je partais au début du principe que c'était forcément une personne top parce que j'allais l'interviewer, donc j'étais content. Donc j'allais regarder que des choses positives sur sa société, sur... Alors qu'en fait, t'apprends beaucoup plus à la questionner correctement quand tu vois les deux camps, quand tu vois ce qu'on reproche à la personne et ce qu'on idolâtre chez la personne, quoi.
Mais quand tu veux vraiment te faire une opinion sur quelque chose, il faut faire cet effort.
Ok.
Ce qui m'a amené à lire des livres de Glucksmann.
Mais je pense que quand tu...
Qui c'est?
Raphaël Glucksmann?
Eindhoven.
Eindhoven?
Je t'ai juste dit un autre Raphaël.
On veut une bataille de Raphaël?
Oui.
Et tu vas être échec et mat. Échec et mat? Raphaël le chanteur, il n'y a pas de nom.
Oh putain, j'allais dire caravane.
Ah, bravo les gars.
Bienvenue dans Pyramide.
Je crois que quand tu lis des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, tu n'en apprends pas forcément sur eux, tu en apprends plus sur toi et sur ton avis. Parce que tu lis des trucs auxquels, je disais tout à l'heure, tu lis des trucs auxquels tu n'avais pas pensé, et ça renforce ton opinion. Peut-être que tu ne vas pas changer d'avis, mais au moins ça renforce ton argumentaire.
Ok.
Ce qui est intéressant, c'est de décortiquer leurs pensées.
Ouais.
J'écoute plein de débats d'écolos anti-nucléaires. C'est très très intéressant.
Moi aussi.
Ça montre à quel point ce sont des fanatiques. Et ils ont choisi de ne plus raisonner. Et j'adore alors je connais pas son nom, c'est dommage. Il y a un scientifique qui fait tous les débats sur l'écologie en ce moment-là qu'on voit sur tous les réseaux. Et en fait, il leur repose des faits. Et je trouve ça fascinant, il est trop fort. Parce que lui, il avance de la data.
Il dit après,
pas d'accord, ça c'est une autre opinion. On peut avoir même un avis sur cette question, mais c'est pas ce que disent les faits.
Ok.
Elle était très bien, son intervention.
Et là, il a débattu récemment avec une écolo. Bref. Eh ben, il est fascinant. Et en fait, tu te rends compte que quand tu essayes de développer de la pensée construite autour de faits, ça dérange les gens.
Et
parce
dans
que
ton...
ça les sort de leur petite religion.
Et dans le business, comment tu fais pour te nourrir des avis parfois négatifs ou constructifs des clients. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles dans ton canal de vente où tu te dis, tiens, à ce moment-là, il faut que j'aille interroger mon client ?
Bah, tu t'intéresses toujours. Tu t'intéresses aux collaborateurs qui ne sont pas contents, à ceux qui démissionnent, aux clients qui s'en vont, etc. C'est là où elle est, la data. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément être d'accord avec tout ce que tu entends. Mais si tu ne vas pas écouter ce qui se passe à ces endroits-là, tu peux pas progresser.
Oprah Winfrey, je ne crois pas à la chance. Pour moi, la chance, c'est la préparation au moment où l'occasion se présente. Il n'y a pas de chance si l'on n'est pas préparé à rencontrer cette opportunité. C'est une spéciale Léo, ça.
C'est la théorie du toujours prêt. C'est un truc de scout.
Oui.
Moi, je suis d'accord avec ça.
Oui, c'est vrai.
Si tu restes chez toi tout seul toute la journée et que tu fais strictement rien, bah, personne ne va venir toquer à ta porte sans que tu aies rien fait. Quoi.
Au-delà d'être prêt, tu la provoques forcément, la chance.
Ouais.
Mais donc, tu assumes que... jouer au loto et gagner, c'est mérité.
Je l'assume de plus en plus. Ah, pas encore dans ce podcast, mais on va y arriver, Léo.
C'est quand même une chance que tu as provoqué, finalement, en jouant.
C'est le montant qui est
compliqué. Ah oui, d'accord, en fait. Ah oui, c'est à deux vitesses, en fait.
Si tu gagnes 3-0 et que tu as mis 1 euro, je suis OK. Tu
C'est-à-dire qu'il part du principe que la chance, c'est OK, jusqu'à ce que tu gagnes plus d'argent que lui.
C'est ça.
C'est ça, la règle.
En fonction de l'effort. Deuxième citation de Oprah qui dit « Connais ton prochain coup ». Ça, je pense
c'est personnel, je trouve.
Peut-être. Elle est bien, la panne est très bien. Ça dépend des caractères ou vous pensez que, peu importe le métier que vous exercez, il faut toujours voir après.
Pour moi, c'est les limites des citations. C'est que ça veut tout et rien dire,
ouais,
en fait.
Ok.
Enfin, j'ai du mal à trouver de la profondeur dans un truc comme ça.
C'est une façon de résumer en très peu de mots le fait qu'il faut pas confondre stratégie et tactique.
Ok. Et donc, comment tu fais pour pas confondre ?
Il a répondu à une citation par une autre citation.
Elle est géniale.
C'est pas une citation, mais...
Je pense que l'eau qui dort...
Une stratégie, ça voit un peu plus loin, sans parler de long terme, parce qu'aujourd'hui dans le business c'est compliqué, mais au moins de moyen terme. La tactique, c'est le prochain quarter.
Ok.
C'est des composantes de ta stratégie. Et beaucoup n'ont pas beaucoup de stratégie et ont beaucoup de tactique.
Bah, c'est ce qui me ressemble, je pense.
Et c'est un problème, parce qu'au bout d'un moment, tu as des tactiques pour des trucs qui vont arriver dans une semaine, dans deux semaines, dans six semaines.
Ouais.
Mais enfin, pour servir quel grand projet, tu sais pas trop.
T'en as une, toi, de stratégie, Léo ?
Tu perds un peu le...
Je connais déjà pas ma prochaine vidéo, alors...
Ouais, je vois... En général, je vois 3-4 mois, tu vois.
Ah bon ? Tu connais ma prochaine vidéo, toi ?
Bah, bien sûr.
C'est quoi, le sujet ?
Bah, dès qu'on en aura parlé.
Ah oui, d'accord, ok.
Monsieur Rockefeller.
Ah, ouais. L'argent, c'est bien.
Une amitié fondée sur les affaires vaut mieux qu'une affaire fondée sur l'amitié.
Oui, ça, c'est vrai.
Ok. Mmh.
Ça, c'est vrai.
C'est vrai.
Mauvaise idée d'être. De fonder une boîte avec un ami.
Ok.
Oui, très mauvaise.
CEO Nvidia, on est en plein dedans, vu la réussite de la boîte. Jensen Huang, si je le prononce bien. Accepter l'inconnu et le changement, c'est là que se produisent les vraies percées. Comment on fait pour accepter le changement et l'inconnu si, en même temps, on doit rester focus sur ses objectifs ? C'est comment tu laisses une opportunité arriver et te dire « Tiens, je vais aller vers un truc que je connais pas trop » si tu le fais pas parce qu'on l'a dit au début. Quoi,
c'est un peu ce que je disais dans notre épisode sur le luxe. C'est que j'ai du mal à me dire « Pour moi, c'est difficile de maintenir une tradition et la nouveauté. » C'est extrêmement compliqué parce que je les oppose pas mal. Alors, il y a certaines boîtes qui arrivent à le faire, mais en général, je pense qu'il faut un peu abandonner ces traditions et parfois changer les personnes qui dirigent une boîte pour aller de l'avant et pour découvrir de nouveaux trucs.
Est-ce que c'est pas juste une question d'équipe, Manuel ? Est-ce qu'il n'y a pas juste une équipe qui s'occupe d'être focus sur les projets, la stratégie en cours, et une équipe, ce qu'ils appellent dans les boîtes R&D, qui on n'a rien à foutre du produit qu'on va lancer au grand public là dans deux mois, mais qui bosse sur des trucs qui peut-être n'arriveront jamais, quoi.
Bah, une boîte, c'est... En fait, il faut le regarder un peu comme des sinusoïdes, tu vois, mais elles sont pas parallélisées.
C'est quoi une sinusoïde ?
Oh, la phrase !
Bah, c'est-à-dire que chaque département
d'une boîte... En parlant de modernité, Manuel a choisi de jouer au Scrabble.
12 points.
La boîte, elle a des cycles, avec des hauts et des bas. Une sinusoïde, c'est comme ça. Je le fais avec le doigt, donc on ne le voit pas dans le podcast. Et chaque département a son rythme. Mais il faut quand même un orchestrateur général pour faire en sorte qu'il y ait des croisements et des intérêts communs. Parce que si à un moment la R&D tire dans un coin et que le produit fait tout autre chose, on va vite avoir un problème. Ah, attention, Léo veut dire quelque chose, il a levé le doigt.
Mais vous savez que moi, c'est ma crainte parce que j'espère que je ferai des vidéos toute ma vie. Et je me dis, il y a forcément un moment où je vais devenir un vieux con.
Ah ben,
et où je vais commencer à dire des trucs où je me dirais, non, mais ils se rendent pas compte, les jeunes, à quel point ils ont tort. Et en fait, ce sera trop tard, quoi.
Et nous, avant, on n'avait pas.
Bah ouais, et nous, je te dire que quand on a eu Vision Pro, ça c'était de la vraie tech, hein, ça c'était de l'innovation. Je veux dire que c'est pas maintenant avec vos trucs. C'est terrible. Mais est-ce que c'est évitable, ça, en fait? Non, je crois pas.
Non.
Mais le plus tard possible, quand même.
Bah, tu sais, tu regardes. À partir du moment où t'as un mec comme Inox qui dit tard l'époque,
ouais,
c'est fini.
Ah toi, ah ouais, tu penses que je suis trop vieux, c'est ça que tu veux dire?
Bah, je veux dire que tout le monde est ancré un peu dans son époque, sa nostalgie, la technologie avec laquelle il est né, etc., etc.
Mais je veux pas que ça altère mon jugement. C'est ça qui m'inquiète.
C'est compliqué.
Oh la vache.
Manuel.
Cryogénisé.
Pourquoi dans ton entourage il y a très peu de gens de ton âge?
Pourquoi dans mon entourage? Si, il y a des gens.
Bah, ils sont tous morts.
Si, il y a des gens de mon âge quand même dans mon entourage. Ouais, il y a des plus jeunes, il y a des plus vieux.
Et moi, c'est ce qui me fait halluciner dans certaines conversations, c'est que parfois, juste, je me dis, attends, il y a quand même un écart de génération, et pour autant, on le ressent absolument pas dans les conversations qu'on a.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité des gens. Donc, leur date d'émission m'intéresse assez peu, en fait.
Est-ce que c'est une clé pour ne pas vieillir comme un vieux con?
C'est ça, cryogénisation. Regarde, il était dans une très grosse boîte, mais avec que des vieux.
Ouais,
c'est pas vrai.
Il s'emmerdait, un peu quand même.
Non, c'est pas vrai.
Beaucoup de vieux. Non. Il s'emmerdait, il a fondé une boîte avec que des jeunes.
Il s'emmerde plus, là. Mais parfois, il regrette de s'emmerder un petit peu. Il arrive au podcast.
Bah, des fois, tu te dis, on n'est pas bousculé intellectuellement.
Mais il y a quand même une vague de fraîcheur que t'aimes bien.
Parce que t'as un défi, oui, quoi. Il y a un truc.
Et c'est comme un bonbon menteux.
Tu t'emmerdes, Emmanuel, dans ta boîte là.
Pas du tout.
Mais si, c'était fini, Emmanuel. T'étais plus du tout challengé. C'était que des. T'étais plus qu'avec des commerciaux. Ça t'emmerdait, Emmanuel.
Il y avait des gens brillants.
Ah oui, non, mais par contre, brillants. Non, mais je parle pas de tes collaborateurs. Je parle du marché.
Ah.
T'étais dans un truc, c'était des mecs avec des mallettes en cuir, quoi.
Bah, tu nous le disais, il fallait faire plusieurs rendez-vous, plusieurs trucs. C'était pas, ça bougeait pas vite, s'il y avait pas de.
Enfin, oui, le marché est pas dingo.
Voilà, là, t'es chez les influenceurs. Tard l'époque, Manuel.
Bah, déjà, t'apprends une autre langue.
Jensen Huang, la prochaine. La collaboration ouverte et les partenariats sont les clés du progrès et de l'innovation. Léo, tu fais aucune collaboration.
Ben non, mais parce que.
Commercial, si.
Si, commercial.
Ah, si, ça, j'en fais plein.
Mais je veux dire, artistiquement et d'un point de vue purement développement, lui, il en parle, je pense, parce que Nvidia a beaucoup collaboré, notamment récemment avec OpenAI. Il y a eu plein de choses qui ont fait que leurs produits ont évolué très vite par les collaborations. Est-ce que du coup c'est inévitable ou pas? Ou est-ce qu'on s'en sort différemment? Est-ce que...
Bah, j'en suis la preuve.
Ouais.
Mais même.
Bon, t'es pas Nvidia, mais.
Non, mais t'as commencé à parler de moi, donc je parle de moi.
C'est vrai. Mais la transition avec Manuel, du coup, c'est est-ce que tu peux monter une grosse boîte sans faire de collaboration
Mais prends l'histoire du logiciel. T'as le logiciel propriétaire d'un côté, ça marche pendant un temps, puis t'as le logiciel open source de l'autre, qui arrive à produire une valeur folle par la collaboration.
Et les deux sont indispensables à l'évolution.
Ok, donc rester dans son coin en se disant que...
Même des boîtes qui ont fondé leur fortune sur le logiciel propriétaire sont obligées de travailler avec des organisations de plus ouvertes ou de type fondation pour arriver à maintenir leur avantage concurrentiel ouvert. C'est exactement le cas de Microsoft et de ChatGPT, qui est censé être une fondation.
Une question de financement aussi.
Enfin, si tu demandes à Elon Musk, apparemment, il n'est pas d'accord.
La dernière, je la trouvais assez incroyable en tant que CEO d'NVIDIA, parce qu'aujourd'hui, la valeur boursière de NVIDIA, c'est 2,144 trillions C'est la troisième plus grosse valeur boursière au monde.
Ah putain, Daniel, t'étais à ça de pouvoir le racheter. Hein.
Attends que je vide mon PEA.
Ils sont devant Amazon et devant Google. Nvidia, alors que le grand public connaît beaucoup plus Amazon et Google. Ouais,
merci la blockchain, merci les cryptos, merci tout ça en fait.
Et pour autant, il te dit, enfin le mec est très smart, c'est comme t'aimes bien Manuel, les gens très très discrets, même s'ils sont ultra blindés, tu dirais pas du tout. La réussite est un travail.
Moi j'aime les gens discrets, qu'ils soient blindés ou pas.
Ouais.
C'est vrai. Qui me différencie.
C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il a.
Moi j'aime les gens discrets.
Toi, oh, t'es un connard, ah, c'est pas vrai.
Je ne juge pas les gens c'est en fonction vrai. De leur fric en fait, mais j'aime bien les gens discrets.
Bah si, c'est vrai.
Bah, je traîne avec aucun blindé, à part Manuel. A... Donc c'est
c'était,
faux.
C'était une attaque envers Romain, j'ai pas.
Mais pas du tout.
Mais non.
Si, parce qu'il
c'est
dit...
pas ce qu'il dit.
Pourquoi tu l'as pris
les
mais
gens,
non, non,
non, non. Discrets s'ils sont blindés.
Mais non, je dis que les gens. Non, tu...
J'aime bien les gens discrets. Sont... Point.
Oui. Romain, pourquoi, ta phrase ici. Pourquoi tu l'as pris personnellement?
Parce qu'il me dit, contrairement à toi.
Non.
Bah oui.
Ah, t'as dit ça.
Il a dit ça.
Oui, j'ai dit ça. Bien sûr.
Ah, j'avais pas entendu.
Bien sûr, j'ai dit ça. Bah, il est monégasque.
Oui, bah c'est vrai, faut jamais l'oublier quand même. Pourquoi tu nous montes ta Rolex?
La réussite est un travail en cours, il ne s'agit pas d'atteindre un objectif, mais de s'améliorer constamment et de repousser les limites. Et quand le mec, j'ai écouté encore une interview là de plus d'une heure, il s'en fout de la valeur boursière, de l'argent, de trucs. Lui, tout ce qu'il se dit, c'est notre produit est incroyable, mais il faut qu'il soit encore plus incroyable.
Ouais, mais c'est une position facile trop facile.
Voilà, c'est le plus facile à dire quand t'as cette valo. Quand tu joues pas ta vie, quoi.
Ouais, mais il y en a qui ont pas cette valo et qui se la pètent 10 fois plus. Hein.
Ah oui, mais c'est pas la question. La question, c'est que, oui, il a raison dans le fond. C'est-à-dire que c'est l'obsession, ça doit être améliorer le produit, être meilleur, etc. Indépendamment de la valeur que le marché te reconnaît et place en toi. Mais il est plus confortable de le dire dans sa position que dans la position de quelqu'un qui se dit comment ma boîte va perdurer dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 6 mois.
Puis c'est évident comme position, demain tu me donnes 1 milliard. Oui, je vais te dire... Tu sais, l'argent, c'est pas un sujet, je m'en fous.
Ouais, bah, y
c'est
y en a pas beaucoup un truc qui me. Une fois qu'ils l'ont, ouais.
Voilà, tu me le dis aujourd'hui, je te dis, bah, j'aime bien quand même l'argent. C'est trop facile à tenir comme position. Ils le pensent peut-être, hein, mais c'est hyper facile à tenir, surtout publiquement.
Je pense que culturellement, c'est. En Asie, on est. Il y a un bassin culturel, philosophique, une famille de pensée, etc., qui est beaucoup plus tourné vers ça que dans les cultures occidentales.
Mais dans le fond, quand t'as une boîte, tu peux pas t'en foutre véritablement, je pense.
Oh bah surtout pas quand t'es coté en bourse.
Normalement, à mon avis, tu les connais un tout petit peu, les chiffres.
Hein. Ah ouais, c'est sûr. T'as intérêt à les connaître, sinon tu fais flipper. Hein. Surtout sur une interview.
Bah, tu gardes pas ton job de CEO très longtemps si tu les connais pas.
Voilà, pour ça que je suis pas CEO, moi j'ai toujours refusé. Mmh.
Ça vous inspirait?
Pas vraiment.
Génial.
C'est le problème des citations, c'est que c'est des trucs très vrais, parfois un peu basiques, et parfois c'est des trucs que t'as tellement entendu, et même s'ils sont toujours hyper vrais, c'est trop dans l'air en fait.
Bon, vous nous direz sur le hashtag SpeakEasyByInflux, sur Twitter principalement, s'il y en a une qui a retenu plus votre attention que d'autres.
Mais après le problème des citations, c'est que nous, je pense qu'on en connaît beaucoup, peut-être que les gens en ont entendu qu'ils avaient jamais entendu, et là ça prend tout son sens. Mais bon, comme nous, vous savez, on est des têtes pensantes, on n'arrête pas, on pense du soir au matin, on lit plein de livres, donc forcément, oui, on connaît tout. Oui.
Est-ce qu'on peut dire que c'était le tournoi des citations?
Ah, oh, je l'aime bien. Ah, je l'aime bien. Non, il connaît que la F1, lui, donc il a pas la vanne.
Il n'a pas la rêve du tout, je cherche.
Il n'a pas la vanne, mais...
ok.
Tu veux pas qu'on organise le tournoi des citations pour de vrai?
Ah, ça serait drôle.
Sur YouTube? Ou sur Twitch?
Oui, si tu veux.
On se clash avec des citations.
Ça pourrait être rigolo.
Faut répondre avec une autre citation. Comme toi tout à l'heure quand t'as fait ton Scrabble. Là.
Ouais.
Tu nous un tournoi de Scrabble si tu veux retourner à ton ancienne boîte, Manuel. Peut-être qu'on peut.
Arrête.
Merci les gars.
La bise.
Allez.
Salut.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.